With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets, on vous résume, on vous prémâche toute l'actualité tech et technologie de ces a priori de dernière semaine pour que vous n'ayez pas besoin de parcourir tous les blocs de la Terre pour comprendre ce qui se passe. Vous n'avez que les informations importantes à retenir. Alors je dis généralement toutes les deux semaines, là ça fait un petit peu plus longtemps puisque comme vous le savez sans doute si vous avez écouté les épisodes précédents ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je reviens de deux semaines de voyage de noces au Japon. C'était incroyablement satisfaisant, super sympa, vraiment un grand grand moment. Certains d'entre vous le savent peut-être aussi, j'ai vécu au Japon il y a quelques années, donc le fait d'y retourner, c'était un moment vraiment émouvant pour moi. Si jamais vous êtes intéressé par le fait d'avoir un petit peu plus d'infos là-dessus, je vous recommande d'aller soit sur mon Flickr, soit sur Google+. Dans les photos, il y a une sélection des photos que j'ai prises. Si vous les avez pas suivies en direct, vous pourrez aller voir un petit peu tout ça. C'est vraiment un truc, enfin vraiment, non je vais pas dire ça, c'est plutôt sympa, moi j'ai passé un bon moment. Voilà, donc pour le mois et demi depuis lequel on n'a pas fait d'émission, et a priori, bon on en parlera en fin d'émission, mais on va avoir aussi un épisode spécial pour le prochain numéro, on vous en parlera à la fin. En attendant, vous le savez, c'est un épisode classique, donc on a d'un côté Jeff qui est de retour en Californie après son passage à Paris pour le web. Tu vas bien Jeff ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Patrick de partager ces magnifiques photos du Japon. Elles avec nous. Ça m'a donné envie d'y aller, surtout la partie où on voit plein de sushis partout.
Oui, 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 il y avait des trucs, la bouffe franchement,
les sushis. Photos de gyoza, c'était horrible quoi.
Les gyoza étaient magnifiques et les sushis, j'étais allé au marché aux poissons le premier jour en fait, on s'est réveillé à l'aube parce qu'on était encore en plein dans le décalage horaire et on ne voulait pas aller au marché aux poissons, c'était trop tôt et tout. Finalement, on s'est réveillé à l'aube donc on y allait quand même et les sushis franchement, je pensais que ça j'allais être déçu parce que tout le monde dit tellement que c'est incroyable, mais c'était invraisemblable, les meilleurs sushis que j'ai mangé de ma vie et tout le monde dit ça et pour le coup, c'est vrai. Donc bref.
Et voilà. Patrick n'est pas revenu en fait de la bouffe japonaise puisque on s'est vu à Paris la semaine dernière, on a été manger japonais
exactement. Ben ouais, non mais tu vois, c'est le genre de voyage où c'est difficile d'en sortir. En plus pour moi comme je le disais, c'est pas juste un voyage, tu vois, c'est toute une partie de ma vie le Japon. Donc mais par contre, ça m'a fait replonger dans l'univers des trucs japonisants que j'aimais quand je suis parti là-bas et du coup, je suis revenu à certains trucs que j'avais un petit peu laissé de côté depuis quelques temps. Donc c'était une vraie cure de jouvence pour moi.
Donc tu relis de l'animé ?
Bah écoute, je lis un petit peu je m'intéresse un petit peu au manga, même aux jeux vidéo japonais, des trucs que j'avais laissé un petit peu de côté, des JRPG comme j'ai acheté une PlayStation Vita là-bas et je joue à Persona 4, les connaisseurs comprendront, c'est un truc très très japonais mais vraiment sympa. Enfin bon, bref, ce genre de choses. J'en parlerai peut-être un jour. Mais bon, donc vous avez entendu Jeff, vous n'avez pas entendu Jérôme Kainborg qui se joint à nous puisque lui aussi était à le web.
Absolument. Au web. Je m'excuse par avance, Patrick, des critiques d'inviter ton ami consanguin, puisqu'à chaque fois on a droit à une critique quand je suis invité dans le web. Donc sanguin, je sais pas, con, c'est une certitude, mais en tout cas je suis là.
Très bien, merci d'être là, Jérôme. Et d'ailleurs, je dis parce que tu étais à le web, mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que tu es un jeune homme de qualité.
Ouais, attends, tu cherchais désespérément des gens qui allaient à le web et moi je fais ouais, j'y étais aussi. Et t'as fait ok, viens.
Aussi. Et en parlant de jeunes hommes de qualité, on a aussi Benoît de Niptech. Comment vas-tu, Benoît ?
Salut, salut, très très bien, évidemment très content d'être là, et comme j'étais un peu le seul soit pas à être dans un endroit exotique comme le Japon, soit le web, je me réjouis d'entendre tout ça. J'ai évidemment suivi d'un œil attentif, mais enfin j'y étais pas.
D'accord, bon bah très bien, tu pourras nous donner tous tes avis là-dessus aussi, comme toujours notre ami Denis Ptech qui est là de temps en temps, là il est là sans ses camarades, vous pourrez l'écouter dans Denis Ptech, on vous donnera tous les détails pour ça à la fin de l'émission. Alors commençons, on a deux choses dont on va parler essentiellement aujourd'hui, d'une part le web qui a eu des moments assez intéressants et d'autre part la fameuse loi de programmation militaire, cet article 13 qui est maintenant devenu un article 20, qui est une sorte de NS ça de Big Brother, de Snowdenerie à la française, qu'on va démêler un petit peu avec vous. On vous expliquera un petit peu de quoi il en retourne. Commençons par le web. Vous le savez, le web, c'est cet événement tech créé par Loïc Lemaire, qui est devenu le centre des événements tech en Europe, en tout cas, l'un des gros événements à ne pas manquer dans l'année. Il y en a un en France, à Paris, et un à Londres, à 6 mois d'intervalle. Donc, ce mois de décembre, c'était celui de Paris. Y étaient présents Jeff et Jérôme, et donc Jeff a participé à une discussion avec Arnaud Montebourg, qu'on évoquera tout à l'heure. Et Jérôme, donc, tu avais un petit résumé de ce qu'il fallait retenir du web, donc les moments forts. Pour cette année, moi, j'y étais pas, donc je me réfère à toi pour me dire tout ce qui s'y est passé.
Absolument. Alors tout, moi honnêtement, j'y allais pour le travail avant tout, donc c'était pas comme l'année dernière où j'ai vraiment fait une couverture. Non, mais j'ai quand même noté les points essentiels. Déjà sur le web, j'ai trouvé qu'il y avait une petite baisse de fréquentation cette année. Je sais pas si t'as fait le même effet, Jeff. Je ne saurais m'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que il y avait un petit peu moins de monde. Il y avait peut-être pas des grandes stars du web comme on a eu d'autres années avec Eric Schmidt ou d'autres. Pourtant, franchement, j'ai trouvé que les conférences étaient excellentes, en tout cas celles que j'ai suivies. La qualité des débats était vraiment très très bien, mais il y avait un petit peu moins. La preuve en est, c'est qu'on avait du réseau. Donc si tu as du réseau à le web, ça veut quand même dire qu'il y a un petit peu moins de monde, ou alors qu'ils ont pris plus de réseau. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une petite baisse de fréquentation, mais bon, rien de bien grave. Il y avait plus de petits fours, donc c'était cool. Dans les grandes tendances...
C'est vrai que les petits fours, ils étaient quand même vachement bons.
Ah ça, c'était bon. Surtout, il y avait ce pain d'épices au foie gras là, j'aurais bien piqué l'assiette. Bon, je vais pas vous faire un compte rendu des petits fours, ça prendrait 3 heures. Moi, ce que j'ai retenu, alors le web, la thématique de cette année était hautement intéressante, c'est qu'est-ce qui nous attend dans les 10 ans à venir. Alors, je vais pas suivre le plan de Loïc Lemaire, mais globalement, moi, ce que j'ai retenu et des choses qui m'ont vraiment intéressé, il y avait toute une partie déjà sur la méditation. Alors, moi, je sais que je n'y ai pas participé, mais il y avait beaucoup d'applications sur la méditation, le retour sur soi et une tendance qui peut faire sourire, le côté on se détoxe du online, c'est-à-dire on est
saturé. Aller à le web pour ça, c'est intéressant effectivement.
Ouais, non mais c'était intéressant. Il y avait un retour presque du physique. On nous parlait aussi de communauté physique qui, grâce à des apps, il y avait presque un côté hippie avec ces startups qui se regroupent à San Francisco pour non seulement travailler ensemble, mais aussi vivre ensemble. Donc un côté le retour du physique, le retour sur soi, avoir une vie plus saine, un peu moins connectée, avec des vrais week-ends détox qui ont l'air de cartonner. Donc ça avait l'air d'être une tendance assez lourde. On parlait de Burning Man aussi, des choses comme ça. Une chose qui m'a beaucoup intéressé, alors j'avoue que c'était un peu pour le travail, mais une tendance qui a l'air assez lourde dans la manière de penser le web, les applications et tout ça, c'est cette notion de reduce friction, réduire les frictions. Et il citait beaucoup Uber, Hotel Tonight ou des choses comme ça. C'est-à-dire, les frictions, c'est tout ce qui nous empêche finalement de consommer, d'être dans un tunnel de consommation fluide. C'est sortir sa carte bleue dans un taxi, c'est devoir remplir des formulaires compliqués, donc une espèce de simplification des choses pour fluidifier le tunnel d'achat, comme on dit dans le métier, mais ça avait l'air d'être une tendance assez intéressante. Un point, alors j'ai pas trop suivi les conférences, mais par contre j'ai été passionné par l'intervention de Nick Dalloisio qui a vendu Sumly à Yahoo. On parlait d'éducation, en fait, des nouvelles manières d'apprendre les choses. Il y a beaucoup de startups.
Qui est un petit jeune qui a lancé sa société.
C'est un petit jeune, il a 18 ans, il est d'une maturité, d'une humilité absolument incroyable.
Il a 18 ans maintenant, donc il a créé sa société il y a déjà 3 ou 4 ans.
À 15 ans. Il a fait ça l'été pour se détendre. Moi, à son âge, pour me détendre à 15 ans, je vous dirais pas ce que je faisais. si ce n'est me tirer la nouille. Mais franchement,
What? Non, mais ça c'est Jérôme. C'est l'influence de Cédric Bonnet dans Upload.
Voilà. Je suis là pour censurer l'émission de Patrick, en fait. Franchement, au-delà de ça, et notamment, il a abordé une notion qui m'amène à un point suivant que j'ai trouvé très intéressante, où on parlait de Snapchat et du côté éphémère des informations. Aujourd'hui, on a besoin d'éphéméritude. Des informations. Le mot ne restera pas, je crois. avec des tendances lourdes comme Snapchat. Et ce qu'il disait lui, et j'ai trouvé que son analyse était brillante, c'est que voilà, le cerveau humain n'est pas fait pour la mémoire humaine n'est pas faite pour se souvenir de tout. Or, on vit entouré finalement avec nos mails, nos ordinateurs et nos réseaux sociaux de choses qui se souviennent de tout. C'est assez oppressant, en fait. Il y a une espèce de mémoire digitale, et ça nous amènera après à des débats sur l'article 13, mais la mémoire digitale, elle est presque inscrite dans le silicone, et ça peut être oppressant dans nos vies, et d'où une nécessité de ramener de l'éphémère. Peut-être dans nos manières de communiquer. Donc ça, c'était pour éducation, le côté éphémère. Il y avait beaucoup de choses sur la maison connectée. Alors ça, rien de nouveau, si ce n'est qu'on sent que le marché est vraiment en train de prendre avec des choses comme Nest. J'ai beaucoup aimé la présentation de Doorbot, qui est en fait un système pour ouvrir votre porte à distance. Ça
paraître bête. J'avais vu effectivement une présentation il y a quelques mois ou une année de ça, et c'est le genre de truc où on se dit, c'est tout bête, tu ouvres ta porte à distance, à quoi ça sert? Et dans la vidéo de présentation, il te montre à quel point effectivement ça peut être utile, et je sais pas si c'est l'effet de distorsion de la réalité ou je sais pas quoi, mais au bout de la vidéo, tu te dis, mais il me faut ça tout de suite.
Ah,
quoi.
Mais carrément. Non, mais c'est un des produits les plus intéressants. Une chose très intéressante aussi que j'ai vue, je mettrai bientôt la vidéo en ligne, c'est une fenêtre intelligente qui était sur le stand de France Télévisions. Une fenêtre qui non seulement peut afficher la température, les économies d'énergie que tu fais, etc., mais qui aussi s'opacifie, même fait des volets, peut afficher ta télé. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils avaient pensé à tout. La fenêtre n'est pas touch, puisqu'on ne met pas ses doigts sur la vitre, ça la rendrait dégueulasse. Elle est contrôlée avec un système à distance type Kinect. Et franchement, c'était pas mal du tout, sauf que j'ai fait bugger leur présentation, mais ça, c'est moi, tendance à tout faire planter. Donc, tout ce qui était connecté, il y avait beaucoup de voitures aussi. On a parlé Tesla, on a parlé chez Renault, ils avaient un prototype très intéressant. Il y avait aussi l'AKA Car, avec des
c'est
systèmes
quoi,
de guidage. Il faut aller voir. Ça serait long à expliquer, mais globalement, c'est une voiture du futur qui va te guider aussi de partout et qui embarque énormément de technologies.
D'accord.
Une autre, alors ça c'était pas nouveau parce qu'on l'a déjà vu l'année dernière, mais pareil, le quantified self, c'est-à-dire toutes ces choses qui prennent des mesures de vous, étaient très présents. Et là aussi, on sent que le marché arrive à une assez grande maturité et commence à vraiment devenir mainstream. Donc il y avait le classique Fitbit, il y avait WeThink qui ont fait une chouette présentation puisqu'ils sont terminés à poil.
Et ça, c'est mais vraiment à poil
ou... Ils étaient en short.
Quasiment à poil et c'était horrifiant.
C'était horrifiant. Parce qu'ils n'ont pas des corps d'athlète, mais j'ai trouvé ça très courageux. Surtout que leur présentation était pas top au début. Moi, j'étais limite de m'endormir. Je digérais mon foie gras au pain d'épices. Et exactement. Et là, ils ont. Voilà, j'ai trouvé ça fun. Et au moins, ils se mettent à fond dans leurs produits. Des chouettes produits, hein, d'ailleurs, chez WeThings aussi. Ce qu'on a noté, c'est les premiers vêtements aussi chez OM Signal avec des t-shirts. Moi, ça m'a personnellement vraiment fait flipper parce que le truc, en fait, capte par exemple tes battements cardiaques et envoie un message si jamais t'as une ratée du cœur tout de suite à ta famille. Je sais pas. J'ai trouvé que leur présentation était, mais c'est peut-être moi, j'ai trouvé ça un petit peu effrayant parce que finalement, le côté partager ces données, peut-être avec mon médecin, mais je suis pas sûr d'avoir envie que ma famille voit mes battements cardiaques. Quoi.
C'est intéressant ouais,
enfin,
parce
attends,
que
si tu n'as pas de problème, effectivement, ça fait un peu côté Big Brother. Mais si jamais tu as des ennuis cardiaques, je peux te dire que c'est le genre d'outil
ouais,
qui peut sauver la vie.
Je me mets à la place de quelqu'un qui a, par exemple, les battements cardiaques de son père qui est vieux et malade et qui voit qu'il y a des problèmes et qui peut rien faire. Ça peut aussi mener à des situations extrêmement psychologiquement désarmantes, quoi.
Bah, disons que plus que ça, même, il y a une nouvelle intéressante, c'est que il y a une société qui s'appelle 23andMe, donc 23 et moi, qui fonctionnait depuis quelques années aux US, qui faisait une analyse complète de votre ADN. En fait, vous leur envoyez de l'ADN et vous faisiez une analyse complète, ils vous renvoyaient l'analyse. Et en fait, ils ont été interdits aux États-Unis parce que ce genre d'information doit être contrôlé, n'est pas facile à appréhender. C'est comme les Doctissimo et tous ces trucs. Si on te donne l'information comme ça, ça peut soit te faire paniquer, soit tu peux commencer à faire des choses qui sont pas nécessaires. Il faut l'avis d'un vrai médecin, tu vois, dans ce genre de cas. Donc bon, ils vont peut-être revenir un petit peu plus encadrés. J'imagine que ce type de technologie a énormément de potentiel, mais il faut peut-être aussi avoir un cadre qui régule un petit peu les choses, ou en tout cas qui s'assure que ça peut pas avoir de conséquences vraiment négatives. C'est vraiment l'exploration d'un nouveau domaine.
C'est,
quoi.
C'est Uncharted Territory, il y a des côtés un peu flippants, il y a des côtés, par contre, c'est très intéressant hein, ce qu'on peut faire avec. Mais bon, je me mets dans la situation, t'es en train de tromper ta femme, t'as le rythme cardiaque qui accélère, et toute ta femme qui débarque parce qu'elle croit que t'as un problème, ça peut être gênant.
Ah oui,
j'aime bien ton use case, toi.
Oui, c'est
bon,
parfait.
En même temps, tu me diras si t'enlèves pas ton t-shirt... Quand peut-être juste... maîtresse, c'est pas top.
Juste un petit truc, si vous êtes intéressé par ce domaine-là, les vêtements connectés, il y a une société française qui s'appelle Citizen Data qui fait ça. Donc, il y a pas mal de trucs qui se passent là-dessus en France, quoi. City, c'est avec un Y et Zen comme la méditation de le web. C'est assez cool. Ça vaut la peine de jeter un coup d'œil.
Okay. En tout cas, on sent que tout ça débarque. Je passerai très vite. Il y avait des choses sur l'intelligence artificielle, mais je suis pas allé aux conférences sur Siri et Google Now. Moi, ce qui m'intéressé aussi, parce que c'est un peu mon boulot, les tendances lourdes dans la création de contenu. Aujourd'hui, il y a de créer du contenu très rapidement avec des choses comme Vine, des petites choses. On a parlé aussi de Mindy, qui est une start-up française. A été présenté aussi 8ly, qui a l'air très très intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet. J'ai essayé de retrouver une vidéo, mais en fait, elle n'est pas encore sortie. C'est des anciens d'Apple, de Yahoo et de je ne sais plus qui lancent en fait à base de cartes. Tu vas pouvoir construire une appli mobile pour diffuser ton contenu, mais sans rien y connaître en programmation, d'une manière assez ludique. Et ça te fait des sites. En tout cas, ce qu'ils nous ont montré avait l'air intéressant. Je ne sais pas si ça marchera très bien, mais ça avait l'air très intéressant. Donc, pas mal de choses sur la création de contenu, avec notamment ce focus sur le user-generated content, ce que tout à chacun peut créer comme contenu et partager facilement. Après, le gros morceau, ce pourquoi j'étais aussi à le web, c'est les gros changements qui nous attendent au niveau économique. Et là, c'était certainement les plus gros changements qui nous attendaient. Il y avait beaucoup de choses sur les nouvelles économies, l'économie collaborative, les nouveaux moyens de paiement. Il y avait des conférences sur Bitcoin qui étaient pas mal faites, avec des débats assez intéressants. Une présentation de PayPal, enfin tout un truc sur the way we pay, la manière qu'on a de payer les choses. Avec des choses intéressantes du côté de PayPal, de Square, bon, et toujours de Bitcoin. Le crowdfunding, qui, bon, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que
oui,
aujourd'hui,
ça, c'est un petit peu...
ça devient quand même quelque chose de très important dans l'économie. Et puis après, peut-être des choses moins attendues, les changements dans notre manière de manger. Il y avait notamment une conférence assez folle d'un grand chef cuisinier espagnol, dont j'ai oublié le nom, qui nous parlait de la classification des aliments. Et c'était bien parce qu'il nous vrillait un peu la tête en nous demandant, par exemple, parce que manger une banane, c'est de la cuisine, donc on aurait tendance à dire non. Et il t'expliquait que si, c'est déjà cuisiné, que de
d'ouvrir la banane.
On mange bien des trucs découpés crus dans la cuisine japonaise. C'est pas cuisiné, pourtant c'est de la cuisine. Voilà, des choses très intéressantes parce qu'au-delà de la nourriture, ça posait des questions sur la manière qu'on a de classer les choses. Alors bien sûr, beaucoup de choses.
Peut-être signaler que les vidéos des conférences de le web sont disponibles sur le web justement.
Absolument.
Donc s'il y a des choses là, on va très vite, c'est vrai, mais s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez aller sur leweb.co et je suis sûr que vous retrouverez les conférences à partir de là.
Tout à fait. Beaucoup de choses sur la manière qu'on a d'acheter. C'est des tendances lourdes. Hein. C'est l'omni-retail, c'est le multicanal. Aujourd'hui, on fait plus tellement la différence entre l'achat online et offline. On choisit parfois sur Internet, puis on va acheter en boutique ou l'inverse. On choisit en boutique, puis on commande sur Internet. Toutes ces frontières-là deviennent blurry, enfin floues. Et tout ça se floute. Et c'était très, très intéressant parce qu'il y aura probablement des gros changements de ce côté-là dans notre manière de consommer. Donc ça, c'était assez intéressant. Avec une présentation que j'ai notée, c'est Evernote qui s'est lancé dans la vente de produits physiques et ça a l'air de cartonner. Ils vendent des chaussettes maintenant, Evernote. Donc on pourrait se dire pourquoi j'irais acheter des chaussettes Evernote. Et pourtant, la présentation qu'il en a faite était assez logique et très intéressante.
D'accord.
Voilà. Deux derniers petits trucs. L'importance du design, c'est revenu très très souvent.
Ça va te parler, oui.
Ouais. Qu'aujourd'hui, c'est plus trop ma spécialité, mais je continue à m'y intéresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que disait beaucoup, c'est qu'on ne pitch plus à deux quand on a une start-up, mais à trois. C'est-à-dire amener son designer devient hyper important, voire vital, parce que c'est souvent le design de ce qu'on fait, de son appli, de son site, de son service, qui va faire la différence dans des marchés qui deviennent très concurrentiels. Parce
qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que tu retrouves, toi, Jeff, dans tes relations avec les start-up?
Oui, surtout au niveau des boîtes qui font du business to consumer, c'est vrai que tu vois beaucoup de designers qui se pointent, soit en tant que cofondateurs, soit qui sont amenés très très tôt dans la vie des boîtes.
Mais plus qu'avant, c'est presque surprenant que ça ait pas été le cas avant, en fait.
Tout dépend quand est-ce que tu dates le avant versus maintenant. Ouais. Je pense que c'est vraiment une grosse tendance depuis, je dirais, 2011. Donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans que tu vois effectivement le design ayant une partie prépondérante dans la validation des boîtes très 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 tôt. C'est-à-dire qu'avant c'était on fait une première passe, c'est un peu moche, c'est un peu mal foutu, on le montre aux utilisateurs, on récupère du feedback et après on va chercher les designers. Alors que maintenant, tu vas aller prendre un designer très très tôt de manière à ce que le design fasse partie de ta version initiale.
D'accord. Bon, c'est intéressant. Jérôme, la dernière chose, je conclue.
J'ai pas suivi la compétition des startups parce qu'on peut pas tout faire à le web, surtout quand on est tout seul. Je l'ai pas suivi. J'ai néanmoins fait un petit focus et vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. J'ai interviewé les gens de chez Good Barber, très intéressant, une startup corse qui fait un back office, enfin un CMS pour vous permettre de créer des applis mobiles quand vous créez du contenu et que vous avez un site pour créer très facilement des applications mobiles. Et leur interview est passionnante. On a parlé aussi de la Corse. Est-ce que ça peut devenir une Silicon Valley du bassin méditerranéen? C'était assez intéressant comme petit focus.
Et voilà. Donc ça se retrouve sur nowtech.tv.
Nowtech.tv, ma petite chaîne à moi.
Super. Écoute, merci bien pour ce résumé très complet de ce qui s'est passé.
J'ai certainement oublié des choses, mais vous avez ça, tout le programme sur Internet.
De toute façon, c'est impossible de tout voir à la web. Hein. C'est quand même un gros gros truc. Il y a 2-3 salles différentes avec autant de...
Et puis tellement de petits fours à explorer.
Parlons de l'autre chose que je voulais évoquer donc dans cette émission par rapport à la web, c'était la discussion avec Arnaud Montebourg, qui est, si je ne m'abuse, ministre du redressement productif, c'est ça ? Oui, c'est bien ça.
Ouais, c'est ça, on essayait de voir comment on allait traduire ça en anglais, et en gros, on se pissait dessus.
Ouais, bam, c'était pas possible.
Si je peux le dire.
Donc en fait, la discussion était une discussion entre Loïc et Arnaud Montebourg, qui a très gentiment accepté de venir dans un petit peu dans la tanière des lions, parce que...
T'as vu le tweet que j'ai fait quand il est arrivé?
J'ai pas vu.
It's a trap.
Oui, c'était un petit peu ça. Et donc Jeff était avec. Je me souviens plus du nom de ton camarade qui était avec toi sur scène pour interroger Montebourg avec Loïc.
Fabrice Grinda.
D'accord.
Qui est un entrepreneur de longue date qui avait fait Outland dans les années 90, qui s'est comme tout le monde expatrié aux États-Unis et qui plus récemment était le CEO fondateur de OLX.
D'accord. Très bien, donc effectivement un parterre de Français expatriés finalement, donc assez approprié pour parler avec Montebourg. Jeff, peut-être à l'extrême des trois personnes présentes, je pense pas me tromper ou mentir en disant que tu représentais un petit peu le plus extrême américanophile des trois, et t'étais peut-être le moins comment dire, est-ce qu'on peut dire le plus antagoniste dans l'histoire, sans vraiment dire, parce que t'as été quand même poli et sérieux, mais je veux dire, t'étais quand même un petit peu, et comme on me le fait remarquer de temps en temps dans l'émission, t'es très très partisan des méthodes américaines, surtout pour l'innovation et dans la Silicon Valley, et donc t'es un petit peu déçu par la manière dont les choses évoluent en France.
Oui, et enfin, je pense que la volonté en fait de Loïc, quand il avait sélectionné Fabrice et moi pour aller sur scène pour l'accompagner, c'était vraiment d'avoir des gens qui ont vécu depuis très très longtemps aux États-Unis, qui ont un point de vue sur qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, parce qu'il faut être clair quand même, hein, tout n'est pas rose aux États-Unis et c'est pas une question de tout est beau ici et tout est pas beau ailleurs. Mmh. Donc c'est vraiment avoir un point de vue sur les actifs et les points positifs de la France, effectivement ce qui est gâché par le gouvernement actuel ou voire le gouvernement passé, et en gros pourquoi, enfin qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. En plus faut être très honnête, un, que Montebourg vienne sur la scène du web parler en anglais devant une audience qui lui était quand même assez largement opposée, puisque c'était à peine si quand il parlait il était boué et quand nous on parlait on était applaudi. Donc franchement, le Gus il en a en platine. Hein. Le problème pour moi c'est que il est venu très très bien préparé, donc il s'est pointé avec sa liste de papiers, ses chiffres clés, ses machins surlignés, etc. Dont on en parlera. Un petit papier format A5 pour parler juste de l'article 13 qui est devenu l'article 20 parce qu'il savait qu'il allait se faire interpeller là-dessus.
Bien sûr, oui.
Le problème c'est que ça a été un peu un dialogue de sourds, au sens où on avait deux grandes questions pour lui. Un, c'était comment est-ce qu'on introduit la flexibilité de l'emploi, qui est un des, en gros, comment est-ce qu'on peut aider les startups à se développer pour que la France soit compétitive. C'était ça la question de base. Et Fabrice, lui, attaquait sur le modèle social. Donc, comment est-ce qu'on peut offrir le même niveau de couverture, mais pas avec un modèle qui, pour moi, est dépassé, qui est le modèle donc social, retraite, etc. en France, en prenant un exemple. En prenant un exemple sur le modèle suédois ou finlandais, donc les modèles nordiques que tu connais Patrick.
Oui, très bien.
Et puis moi, c'était donc flexibilité de l'emploi et en gros que le gouvernement ne mette pas ses pattes dans la vie des startups, parce que si une boîte française se fait racheter par les États-Unis ou par une boîte des États-Unis, c'est du positif.
La fameuse histoire de Dailymotion dont on avait parlé il y a un moment, possiblement. Mais écoute, sur Dailymotion, je pense qu'il s'est pas trop mal défendu. Il y avait vraiment une question de perception. Alors prenons peut-être les choses dans l'ordre. D'abord, le courage dont il a fait preuve, ce brave monsieur Montebourg, en venant au web, ça je pense qu'il faut vraiment le souligner, parce que dans l'ensemble, je pense j'étais un petit peu déçu, même assez déçu par son intervention. Il y a eu quelques bonnes choses que j'attendais pas, là où je l'attendais pas forcément, dans l'ensemble, je l'ai trouvé très franco-français, franchouillard.
Voilà.
En voulant, et je sais qu'il y a certains auditeurs qui aiment pas ce mot franchouillard, mais parfois c'est adapté.
Ah oui, mais c'est parfait dans ce contexte.
C'était une caricature quand même. Ouais. Hein.
Et mais même, bon, alors franco-français, franchouillard sur certains trucs où il prenait comme défense de certaines argumentations le fait que, entre guillemets, c'est culturel ou c'est comme ça, ou on est en France et pas aux États-Unis, etc. Et là où ce dont tu parlais, Jeff, sur le modèle social scandinave, je l'ai trouvé effectivement un petit peu fermé parce qu'il n'est pas question de parler uniquement du modèle très libéral aux États-Unis. En Scandinavie, on a des choses qui fonctionnent très très bien avec une protection sociale qui est encore meilleure que celle qu'on a ici en France. Donc, et même sur ça, il était un petit peu fermé, donc ça m'a un petit peu déçu. Jérôme, tu disais, c'est très adapté la question au franchouillard. Moi, je suis désolé, un truc qui m'a un petit peu gêné, et je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais son accent, son anglais était vraiment pas au niveau.
Bah, et, moi, ouais.
Vas-y, Jérôme.
Je dirais que le gros problème, et c'est pour ça que moi j'ai ressenti des sentiments de gêne et de honte en assistant à cette conférence, c'est que déjà, en français, il a une tendance, on va dire, à parler le menton en l'air, avec un côté assez prétentieux, enfin du monde bourg, mais je dirais qu'en France, on s'y habituait, là, avec un anglais très approximatif, des choses qui étaient peut-être plus subtiles, parce qu'il, bon, voilà, il avait sa position que je ne partage pas, mais qui était plus subtile, sont sorties en caricature, avec sa fameuse phrase « We have to slow innovation to protect old business ». C'était plus subtil ce qu'il voulait dire. Il s'est expliqué derrière. Mais c'est la phrase qui va rester. Parce que son anglais est approximatif, sans nuance. Il n'aurait pas dû parler anglais. Je pense que c'était une grosse erreur. En
fait. Ben, Jérôme, je ne suis pas d'accord. Et là, maintenant, je vais intervenir en tant que partie neutre, comme vous le savez, en tant que Suisse.
Monsieur
il faut
Suisse.
Arrêter, en tant que Français, de dès que vous en avez l'opportunité, vous flageller, dire que les choses vont mal et que c'était un scandale. Je ne suis pas du tout d'accord avec Montebourg, hein, je suis du même camp, enfin, je suis entrepreneur et je suis pas d'accord avec ses opinions, mais ce qu'il a fait, il l'a fait très bien. Il parlait un anglais qui était tout à fait honnête et c'était un ministre de gauche qui défendait une opinion du gouvernement de gauche qui me semblait tout à fait raisonnable. Donc, moi, j'ai trouvé son intervention assez bonne, fidèle à sa ligne et au final, plutôt bien. Alors après, pas d'accord, je pense qu'on va pouvoir creuser. Mais il y a vraiment la phrase qu'on lui reproche, mise en contexte, elle est tout à fait pertinente.
C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Je ne critique pas parce qu'effectivement, c'est il appartient à un gouvernement de gauche et il a ses idées, mais il les a mal exprimées parce que justement, il disait je ne suis pas contre l'innovation, mais bon, voilà, j'appartiens à un gouvernement de gauche et que et il faut y aller mollo quand on détruit des emplois, est-ce qu'il n'y a pas des moyens de concertation sociale, etc.
Je sais pas, mais à la limite, bon, c'est vrai, mais il le disait aussi dans le contexte de cette histoire avec Uber et je trouve que sur ce point, il s'est pas trop mal défendu, justement en disant, parce que on est bien gentils nous tous à dire ah l'innovation voilà faut tout chambouler, il faut tout transformer et déboulonner les anciennes industries et changer les systèmes, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, si on essaye de voir la chose un petit peu de l'autre côté, lui ce qu'il disait et ce que je peux comprendre, c'est que nous on est là super enthousiaste, faut tout changer. En attendant, lui il doit retourner auprès et parler avec les gens que nous on veut déboulonner, et il faut qu'ils s'assoient à la table et qu'ils discutent avec eux. Et ce qu'il disait qui est pas faux, enfin moi je l'attendais justement un petit peu plus défenseur des industries de taxi, et finalement ce qu'il a dit, il a dit bon, d'une part il faut les comprendre, et puis l'histoire des 15 minutes qu'il faut attendre pour Uber, c'est une question de transition, c'est un moment où il faut que les choses se fassent effectivement et on peut pas les arrêter, mais il faut que les choses puissent se faire, parce que si on y va en force, les choses se cassent. Et là où j'aurais pas été d'accord avec lui si on avait parlé peut-être d'industrie un petit peu plus un petit peu moins défendable, je dirais. Pourtant, j'adore pas les taxis parisiens. On en avait parlé il y a quelque temps, mais pour certaines industries qui traînent à s'adapter vraiment depuis des années, qui voient le vent venir, on peut parler de la musique ou de ce genre de choses. Là, il disait, il faut que les transitions se fassent parce que si on y va en force, ça va casser et ça se passe beaucoup moins bien. Donc, sur ce point, je trouve qu'il s'est pas trop mal défendu. sur la question de l'anglais, moi je trouve que les gens qui sont à la tête de notre pays devraient, enfin c'est difficile à exiger en même temps, mais devraient parler un peu mieux maîtriser l'anglais, quoi. Je ne lui demande pas d'avoir un accent impeccable, mais par contre, ça fait partie des choses. C'est comme quand on dit, et là par rapport à la question de l'informatique et de l'éducation, peut-être que les gens comprendront mieux ce que je veux dire. Il faudrait que les gens qui font notre gouvernement aient une compréhension minimum de la technologie et de l'informatique, un minimum, tu vois. Enfin, lui, il avait un minimum, Montebourg, mais même lui, c'était le super strict minimum. Moi, il me faisait parler à Jean-Claude Van Damme, quoi. C'est peut-être aussi son caractère. Il me faisait penser à Jean-Claude Van Damme, je veux dire. C'est peut-être aussi son caractère, mais...
Mais Jean-Claude Van Damme, il a un meilleur accent que ça, hein.
Non, mais si tu veux, Jean-Claude Van Damme, quand il parle anglais, quand il parle français, il envoie des
mots
en anglais.
Ouais, mais tous les deux, ils font des grands écarts.
C'est, ouais. Et pas mal, pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que Montebourg, il avait, il parlait en anglais et puis il mettait un mot français par phrase avec une sorte de d'air un petit peu, comme tu le disais, un petit peu suffisant ou un petit peu. Enfin, je sais pas. Moi,
j'ai pas
trouvé.
De toute façon, il est bravache. Il a toujours été comme ça.
C'était ok. Toute façon, c'était hors de question qu'il se pointe et qu'il fasse une interview, une intervention en français, où après il aurait fallu le traduire, parce que je veux dire déjà le style français, c'est de faire des phrases à rallonge, super riches, etc. Donc traduire ça, il l'a fait en fait à la fin de
sur l'article 13.
L'article 13. Et le pauvre Fabrice s'est retrouvé à passer 5 minutes à devoir traduire, etc. C'était vraiment pas facile. Donc je pense que c'était impératif qu'il s'exprime en anglais, ça il l'a fait. Et très honnêtement, je trouve qu'il s'en est très bien sorti, même avec pour quelqu'un qui n'a pas un anglais qui est parfait. Je pense que ce que tu dis, Patrick, tout à fait juste, et Fleur Pellerin, en l'occurrence, est un exemple parfait de quelqu'un qui parle très très bien anglais, qui a un léger accent, mais vraiment très léger, et qui se débrouille très très bien.
Ouais. Oui,
mais n'oubliez pas une chose, vous lui demandez aussi à ce pauvre ministre de tout connaître sur l'agriculture, de tout connaître sur le monde de l'acier. Il n'y a pas que la tech dans la vie, et c'est là de nouveau où je trouve qu'il y a une sorte, les entrepreneurs, on leur doit tout quand ils sont dans la tech, on nous doit absolument de comprendre nos problèmes, nos bobos, nos projets, etc. Et je trouve qu'il y a un problème dans la mentalité des entrepreneurs en Europe, et en France en particulier, sur ce côté un petit peu calimérite aigu, de se dire, nous comprenons. Pas. Et c'est là-dessus vraiment
c'est un petit peu dans ce sens que je voulais dire. Lui, finalement, il doit revenir dans la vraie vie, dans le vrai monde, et parler avec des vrais gens, et c'est pas juste les idéaux que nous on pourrait avoir. Et effectivement, c'était courageux à lui de venir, et c'est vrai que malgré mes critiques, il a parlé anglais et il a tenu toutes les conversations avec quelques mots en français. Bon, c'est vrai, mais j'aurais espéré plus. Mais peut-être que moi qui suis pas raisonnable.
C'était vraiment le point. Bon, comment est-ce qu'on peut aider les entrepreneurs, quelle voie on peut donner aux entrepreneurs et comment on peut essayer de faire avancer le Schmilblick? C'était un peu la question qu'on s'était posée avec Loïc et avec Fabrice. On a mentionné les trois grands ou quatre grands chantiers qui sont nécessaires pour aider les entrepreneurs. En gros, c'est comment je fais pour ne pas avoir un carcan sur la débauche. Et effectivement, il y a déjà un statut, mais de toute façon, c'est un truc à la con. L'exemple que Clara Chi avait mentionné, donc la patronne de Hearsay Social, c'est elle avait un Gus en France qui collait pas, elle a voulu s'en débarrasser, elle a dû lui filer 18 mois de salaire. Je peux te dire que la minette, elle va plus embaucher une seule personne en France maintenant. Oui. Et elle m'a dit, maintenant, les Français, je les embauche à Londres.
Ouais. Mais c'est marrant, c'est un truc que t'as évoqué justement, et avec des termes toujours bien choisis, tu disais, how can I get rid of some, we need to be able to get rid of people. Donc, il faut qu'on puisse se débarrasser des employés, et ça, c'est toujours quelque chose, alors dit comme ça, forcément, ça fait peur, mais c'est toujours quelque chose qui a du mal à passer en France, parce que on ne voit que cet aspect, si on renvoie les gens, c'est inhumain. Alors, la raison pour laquelle tout le monde évoque ça, et la raison pour laquelle tu l'évoquais, Jeff, et ce qu'a repris Loïc, c'est que si tu veux pouvoir renvoyer les gens plus facilement que c'est le cas en France, c'est pour pouvoir les embaucher plus facilement aussi. Et c'est là l'un des exemples, comme la question du modèle social scandinave, où j'ai été un petit peu déçu, c'est que il a réagi comme l'archétype du français, et là je parle pas que des gens de gauche, l'archétype du français qui dit ah ben non, on peut pas vouloir se débarrasser de des gens facilement parce que c'est socialement c'est capitaliste. Et le problème c'est que ça, on ne je dis pas qu'il faut être d'accord, mais par contre on peut en discuter parce que l'autre revers du truc, c'est que on peut engager des gens beaucoup plus facilement, et c'est ce que veulent les entrepreneurs et c'est ce que veulent les startups.
Surtout une startup
engager des gens quoi.
Une startup à ses débuts, et c'est ce que tu as très bien expliqué, je crois que c'était toi Jeff, une startup à ses débuts a besoin d'énormément d'agilité. Parfois au début, il faut beaucoup de monde pour développer le truc. Après, il y a une période où on construit son business et il faut réduire la voilure pour pouvoir vraiment prendre le vent, et puis après on sort la grande voile quand on a réussi. Et c'est vrai que il faut pas se battre la coulpe, hein, je suis d'accord. En France, il y a des trucs très bien, monter une entreprise c'est plus facile qu'avant, mais c'est vrai que cette agilité dont on a besoin au début, on a du mal à la trouver en France. Le système fiscal, il est pas pire que dans d'autres pays, mais simplement il te tombe dessus un peu au pire moment en France quand tu montes une entreprise. Donc voilà, moi aussi, j'étais déçu. J'aimerais qu'il y ait des mesures, pas forcément pour tout changer. Ou on n'est pas la Californie, nous l'a bien précisé. On le sait. Mais voilà.
C'est ça le problème.
Non, mais c'est un peu. Pardon, vas-y Benoît.
Il y a une chose qui est certaine. Hein. Moi, j'ai fait part de négociations de rachat de sociétés, dont une en France, et le fait qu'elles soient en France a fermé des portes, parce que les gens ont dit c'est un environnement toxique, on ne rentre pas en matière. On me l'a dit texto, hein, c'est pas quelque chose que j'invente. Donc c'est vrai qu'il y a un gros problème d'image à ce niveau-là et qui vraiment fait du mal au pays à plusieurs niveaux, aucun doute.
Et Jeff, alors au final, après la longue discussion que vous avez eue à quatre, t'en es ressorti avec quelle conclusion, qu'est-ce que t'en as pensé et qu'est-ce que t'as pensé de ce qu'il a dit? C'est ce que t'attendais, t'étais déçu, t'as eu des bonnes surprises?
Non, je pense que j'ai été positivement surpris de la façon dont il s'est conduit en anglais. Et bon, c'est un orateur. Ça m'avait prévenu. On m'a dit attention, hein, c'est pas quelqu'un qui va être facile à mener. Et pour en placer une, bonne bourre. Et je pense que ça, en repensant en fait à notre intervention, on a été un peu trop poli de le laisser. C'était pas un débat. C'est-à-dire qu'en gros, on posait une question, on passait 30 secondes et après il attaquait, il en est pour 3 minutes. Et je pense que j'ai réussi à placer beaucoup plus que Fabrice, qui lui attendait très poliment que lui donne la parole, ce qu'il l'a jamais fait. Donc pour moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il nous a en gros enfumé sur quelques sujets du genre mais si la France est pleine d'innovation, regardez IBM. Attends, on se la gueule du monde, faut pas déconner. L'histoire de il faut ralentir l'innovation parce qu'il faut pas aller trop vite, vous comprenez. Attends, je veux bien comprendre que la traduction d'une phrase française en phrase anglaise a peut-être pas forcément bien fonctionné pour lui, mais c'est à se pisser dessus, quoi. C'est, ah bah attends, je vais dire à tout le monde, hé les gars, là, on ralentit, là, oh, ouais. Du calme.
C'est sûr
calme.
Que c'est pas exactement le même état d'esprit chez ceux qui font cette innovation, donc on parle de la Silicon Valley, effectivement, ouais.
Tout à fait. Donc, pour moi, la question, c'est la compétitivité de la France par rapport aux nouvelles industries, aux nouvelles start-up, aux nouvelles opportunités. C'est vrai qu'on voit une belle boîte comme Criteo, qui est vraiment un joyau. Bon, admettons que Dailymotion on la met dans la même catégorie. Ce sont des belles boîtes, on peut pas. Et en gros, elles avancent dans le contexte français avec des enclumes aux pieds, quoi. Et la question, c'est comment on peut les désenclumer. Et malheureusement, il y a tout un tas de tabous à cause des syndicats, à cause des lois de protection sociale, et on ne laisse pas les jeunes pousses se développer tel qu'ils le doivent. Ce que j'espère, mon espoir personnel, c'est en fait pas tellement le discours Montebourg, mais c'est le discours Pellerin, où elle disait, en gros, on va essayer de mettre en place pas mal de choses dans le statut jeune entreprise innovante, qui permettra d'offrir une certaine flexibilité à ces jeunes pousses, là où ils en ont besoin. Parce que, pour être très honnête, on a une start-up, on a 10 développeurs, on en vire 2. Je veux dire, les mecs, ils se retrouvent pas sur le marché ils sont pas au chômage pendant 24 ou 36 mois. Ils sont en gros sur le marché pendant 2 semaines. Et encore.
Donc, tu veux dire aux États-Unis?
Non, mais en France. Les développeurs, c'est hyper recherché, quoi, par exemple.
Donc c'est pas comme si tu mettais la personne à la rue, quoi. Je veux dire, on va virer des gens tous les jours, on va se débarrasser de gens qui sont pas performants dans le contexte de la boîte. C'est pas forcément qu'ils sont mauvais dans l'absolu, c'est qu'ils sont pas performants dans le contexte de la société. Et on le fait sans aucune arrière-pensée ou se dire, mon Dieu, je vais les mettre à la rue parce qu'ils ont un job même pas sous une semaine. Même pas. Et aujourd'hui, dans la vallée, on est dans une période de plein emploi où on n'a pas assez. Enfin, on aurait 10 000, 50 000, 100 000 ingénieurs de plus. Je sais même pas si on aurait la possibilité
de combler
le trou et les postes que l'on a.
Ouais, je pense qu'un autre exemple, moi, qui me choque beaucoup en France, c'est la vision du travail à distance. Hein. Maintenant, on engage des gens n'importe où dans le monde, etc. Et si vous lisez la loi française sur le travail à distance, c'est encore considéré comme une espèce d'affreuse punition que le méchant patron impose au pauvre employé qui, finalement, il peut rien, aimerait tellement faire 4 heures de bagnole pour aller dans un bureau.
Ça, c'est fou,
c'est vrai.
Et justement pour dire un dernier mot, moi ce qui m'a choqué, c'est surtout dans Montebourg, Pèlerin effectivement moins, il y a surtout ce côté très colbertiste, enfin l'État français qui intervient dans les conflits sociaux entre les vieux chauffeurs de taxi et le méchant Uber. À la limite, c'est là où il faut comprendre l'économie moderne. Effectivement que ça détruit des emplois, mais laissez aussi les taxis réagir. On le voit, moi je le vois sur Paris, Taxi Bleu, sa nouvelle app et tout ça, et pourtant c'est des taxis artisans, ont très bien réagi au phénomène Uber, leur app elle est très performante, et je discutais avec un vieux chauffeur de taxi qui avait encore un petit peu de mal à comprendre que j'allais pas le payer directement et que c'était dans l'app, mais il faisait des efforts. Je veux dire, c'est toujours l'État tout puissant qui va décider de votre sort, qui va soit vous protéger, soit vous détruire. Il y avait ce côté État tout puissant, moi, qui m'a un peu laissé le poil.
C'est effectivement un mal très français, et on a l'impression que l'État est responsable de tout, finalement. Ouais. Et ça a des bons côtés et des mauvais côtés, mais je pense que, et je continue à prendre l'exemple de la Scandinavie, parce que c'est vraiment, on a l'impression que les Scandinaves, souvent, on dit, ah bah oui, mais la Scandinavie, c'est socialiste, ils font la même chose que nous. Mais pas du tout. C'est effectivement des socialistes, mais c'est pas les mêmes socialistes du tout, quoi. Donc, c'est des choses intéressantes à étudier aussi. Dans tous les cas, si vous voulez voir la discussion avec Montebourg par vous-même pour vous faire votre propre idée, je vous encourage à le faire. Elle est disponible là aussi sur YouTube et sur leweb.co. C'est dans tous les cas une discussion intéressante. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on vous encourage à aller la regarder par vous-même et puis nous faire part de vos conclusions et de vos avis sur le site frenchspin.com, par exemple, sur l'article de l'émission, au hasard. On va passer à la loi de programmation militaire, ce fameux article 13 qui est maintenant l'article 20. On va aussi parler de Montebourg encore une fois, puisqu'il a étonnamment bien défendu son beefsteak justement sur cette histoire d'article 13, là encore à le web. Ouais. Moi je m'attendais à ce que ce soit un truc indéfendable et finalement il s'est pas trop mal débrouillé du tout.
Ouais, il a bien noyé le poisson. Hein.
Moi je trouve pas uniquement.
C'est un bon orateur, il a bien retourné la salle, mais si tu décortiques ce qu'il a dit, il a noyé le poisson.
On va en parler justement. Jeff, tu nous dis quand tu dois filer, parce qu'on est déjà à 3/4 d'heure d'émission, donc comme tu n'as généralement pas
d'heure. Je vais ajouter mon point de vue sur l'histoire, et puis après, je m'en vais.
Bah, pas de problème. Dis-nous tout.
C'est effectivement qu'il avait... Il a... Alors, n'étant pas au centre du débat français, mais ayant vu le problème américain, du côté américain, avec les écoutes de la NSA et Edouard.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need.
Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Snowden, je pense que effectivement, en gros, ce qu'il a dit, c'est pour une fois, on a mis en place une législation qui s'adapte aux technologies d'aujourd'hui. On avait un cadre juridique pour les écoutes téléphoniques. Eh ben, on a amené ce cadre juridique dans le cadre de la messagerie Internet. Et de toute façon, vous inquiétez pas, on a un système qui a été approuvé par la Cour suprême,
le Conseil constitutionnel.
Et donc, voilà. Et n'ayant pas du tout regardé le détail de la version française des problèmes de la NSC, je peux pas dire si c'est crédible, si c'est juste, si c'est noyer le poisson. Mais en tout cas, sur scène, ça semblait faire du sens.
Ouais. Bah justement, alors de quoi s'agit-il ce fameux article 13? En fait, on a entendu énormément de choses et je suis sûr que si vous avez ouvert une page web à un moment dans ces deux dernières semaines, vous en avez entendu parler aussi. Beaucoup de gens clamaient, criaient que cet article 13 de cette loi sur la programmation de la loi de programmation militaire, je sais pas très bien ce que ça veut dire de programmation militaire hein, mais bon, c'est ça, était incroyablement liberticide et que c'était l'arrivée de Big Brother en France et que c'était l'équivalent des systèmes d'écoute de la NSA en France, c'est-à-dire que l'État et certains organes de l'État pourraient sans aucun contrôle espionner toutes nos communications et toutes nos données sur Internet. Alors, c'est effectivement surprenant et on a de quoi être interpellé. En y regardant d'un petit peu plus près, évidemment, comme toujours, c'est un petit peu, voire beaucoup plus compliqué que ça. Parce que il y a, en fait, avec cette fameuse loi, une consolidation de deux lois précédentes qui sont une loi de juillet de 91 et une loi de 2006 qui en gros, si on réunit ces deux lois, on a à peu de choses près à peu près tout ce qui est dans la nouvelle. Que ce soit sur les types de données qu'on peut exploiter et espionner entre guillemets et les moyens de les exploiter, c'est-à-dire qui va y avoir accès et surtout sans juge. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de flou, beaucoup plus, j'exagère, il y a plus de flou dans cette nouvelle version et des sujets qui n'étaient pas tout à fait discutés dans les anciennes versions. En gros, les anciennes lois qu'on faisaient référence à des données électroniques et faisait référence aussi au fait que je vais résumer plutôt la nouvelle, ça va être plus simple parce que sinon je vais partir je vais pas m'arrêter sur les lois précédentes. En gros, il est possible pour des différents organes du gouvernement, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité intérieure, ça peut se comprendre, de la Défense, ça peut se comprendre, de l'économie et du budget, c'est un petit peu plus bizarre, mais c'était déjà le cas dans la loi de 91. Ils auront accès à... là aussi, c'est un petit peu flou, des informations ou documents traités ou conservés par les sociétés qui hébergent ces documents et ces informations, y compris les données techniques. Alors là, c'est un petit peu problématique parce que les données techniques, c'est toutes ces métadonnées, c'est-à-dire les données sur quand vous avez appelé, combien de temps l'appel a duré, et là on peut appliquer ça au mail, hein, à qui vous avez envoyé un mail, à quel moment. Ça, c'est les données techniques. Le problème, c'est que le texte mentionne aussi les informations ou documents traités ou conservés, sans plus de précision. Et entre parenthèses, la loi de 91 précisait déjà ça. Elle disait le contenu est données techniques. Donc elle parlait déjà du contenu. Le problème, c'est que le contenu n'est pas précisé. Donc est-ce que ça veut dire que, en plus de ça, on peut lire ce qu'il y a dans les emails? A priori, oui. Ça, c'est ce que mentionne le texte. Donc il dit informations et documents traités ou conservés. Ça peut vouloir dire le contenu des emails, le contenu des documents que vous hébergez sur votre serveur cloud, etc., etc. L'autre problème, c'est que il n'y a pas de participation ou d'autorisation d'un juge. Il n'y a pas d'élément juridique là-dedans. Et Montebourg expliquait que le juge est compétent pour réduire les libertés, c'est-à-dire que si on espionne ce que vous faites, si on regarde ce que vous faites dans votre vie privée, c'est une réduction des libertés parce que vous n'avez plus cette vie privée qui est sauvegardée. Donc c'est une réduction de liberté. Et en l'occurrence, le juge n'est pas compétent pour réduire ses libertés avant qu'un crime ne soit commis. Il ne l'est que si on a constaté un crime, ou en tout cas si on suspecte un crime. Là, ça ne s'applique pas. Donc il faut le faire par une commission. Ensuite, on est d'accord ou pas, c'est ce qu'a dit Montebourg. Il a dit aussi que ces précédentes lois avaient été jugées constitutionnelles par le Conseil constitutionnel, comme le disait Jeff. Et donc, comme les lois ont été calquées sur les anciennes lois qui s'appliquaient plutôt aux écoutes téléphoniques, ils ont dit, c'est pas la peine de recommencer la validation. Mais en même temps, est-ce que on peut juger que ce type de lois sont applicables de la même manière à des écoutes téléphoniques et à des écoutes numériques qui couvrent beaucoup plus de choses. A priori, ça, c'est beaucoup plus discutable, etc., etc. Dans l'ensemble, moi, ce que je dirais, c'est que ces lois sont malheureusement très floues. Elles changent pas. Elles introduisent un petit peu de flou. Et surtout, elles arrivent à un moment où on a un énorme scandale des écoutes de la NSA. Elles sont pas très différentes des lois précédentes finalement, pas énormément. Mais le faire juste après le scandale de la NSA, c'est ça le vrai problème. Et donc on se rend compte de l'énormité de ces lois qui existaient déjà. Et peut-être que ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que ces lois qui existaient déjà étaient vraiment pertinentes ? Et là, je termine mon monologue, comme les nombreux monologues que je fais dans ces émissions, et je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toute cette histoire ? Vous êtes convaincu par les explications de Montebourg ou d'autres qu'on a entendues à droite et à gauche ? Ou vous êtes inquiet ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je vais prendre la parole et après je vais me barrer.
Vas-y, vas-y.
Je pense que ayant vu le côté américain exploser en vol sur les 3-4 derniers mois qui ont passé, c'est vraiment une question de comment on donne les outils aux agences d'espions, de contre-espions, etc., pour pouvoir vraiment regarder partout, que ce soit les messages électroniques, les emails, les communications, les machins, les coups de fil, les Skype qu'on utilise en ce moment, pour essayer de trouver les terroristes. Soit tu peux pas. Et si tu considères, j'ai vu passer un commentaire de quelqu'un qui disait « Oh, les drones, ça va être encore une raison supplémentaire pour le gouvernement de nous espionner. » Et en fait, le problème, c'est que soit tu vas pour le progrès et les inconvénients du progrès, soit tu veux pas. Et malheureusement, c'est un exemple où c'est pas super clair si tu veux ou tu veux pas, quoi. Mais in fine, il faut se battre avec des outils qui sont avancés techniquement, parce que c'est ce que les terroristes et les gens qui mettent en risque notre vivre,
sécurité, oui.
Notre sécurité font. Donc je sais pas, c'est toujours un peu compliqué, sachant qu'il y a toujours le côté néfarieux qui veut dire, je sais même pas si ça se dit néfarieux.
Je pense pas. Et là les gens qui disaient que je parlais de Montebourg comme d'un Jean-Claude Van Damme se marrent bien, parce que on dit des mots en anglais tout le temps. Mais bon, bref, et des néologismes.
Donc néfarieux, ça va être le côté en fait très très négatif et borderline
méchant, avec des
mauvaises
intentions.
Avec des mauvaises intentions d'utilisation de ces technologies, mais d'un autre côté, faut bien se battre avec les outils qu'on a, quoi.
Ouais. Je crois que ce qui est ressorti des histoires de la NSA, c'est qu'il y a eu des abus. Et c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a eu des abus et que les choses n'étaient pas passées. Alors là, on revient à la question du Conseil constitutionnel. Moi, je pense qu'il serait pas mauvais de refaire passer les choses par le Conseil constitutionnel. Il serait pas mauvais de mettre des juges de temps en temps qui vérifient. Il faut un équilibre des pouvoirs. Et pour la NSA, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de vrai équilibre des pouvoirs. Et là, il faut aussi que toutes ces nouveaux pouvoirs qu'on octroie, ou ces pouvoirs évolués qu'on octroie à ces différents ministères, soient équilibrés par une sorte de contre-pouvoir qui pourrait être les juges, pourquoi pas. Cette commission me paraît être un petit peu suspecte, mais bon, écoute, Jeff, je sais que tu dois y aller.
Ouais.
Merci d'avoir été avec nous, et puis
Salut, bon.
Joyeux Noël à toi, parce qu'on se reparlera pas d'ici là.
Et joyeux Noël, bonne année à tous, et puis on se reparle en 2014.
Exactement. Ciao Jeff,
au
merci.
Au revoir, ciao.
Allez.
Vous deux messieurs, vous en pensez quoi alors de toute cette histoire ?
Ouais, j'aimerais t'entendre sur une chose en fait, parce que je me suis beaucoup posé la question par rapport à ça, et au final c'est un peu comme le principe de précaution le problème. La question qu'on se pose, c'est quelle est la chance qu'on aille à un moment ou à un autre soit un état totalitaire qui va l'utiliser tout ça contre nous, soit des personnes corrompues ou malveillantes qui vont l'utiliser contre nous. Mais est-ce que vraiment cette précaution-là doit être... Enfin, j'ai pas vu d'exemple vraiment incroyable d'abus du système. Oui, mais peut-être que j'ai mal regardé.
Bah, disons que les écoutes téléphoniques, on a vu quand même plusieurs exemples d'abus du système.
Mais c'était grave. Par exemple. C'était au point à faire branler la démocratie.
Ah bah oui. Et puis, bah,
le problème, en fait, oui... Comme le dit Jérôme, il y a eu des exemples, mais c'est une chose effectivement avec laquelle qu'il est difficile de comprendre même. Finalement, on se dit mais est-ce que c'est si grave que ça ? Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, puisque tu me posais la question, Benoît, je pense que j'en ai déjà parlé dans l'émission, mais c'est peut-être la peine de le répéter. Le problème de ces questions d'écoute, c'est que j'avais écrit un article là-dessus sur mon blog, sur patrickbeja.com, qui est en anglais, mais où je détaille cette réflexion très précisément. Imagine, Benoît, que tu n'es pas dans physiquement, tu n'es pas d'endroit où tu serais entièrement dans un endroit privé, où personne ne t'observerait. Mmh. Est-ce que ça t'affecterait ? Évidemment. Si,
bien sûr, ouais.
Bon, d'une part... Dans la rue, c'est peut-être discutable s'il y a des caméras partout. Bon, tu vas dire, bon, à la limite, on s'en fout. Pourquoi pas ? Évidemment, si c'est chez toi, ça va t'affecter. Ça va affecter la manière dont tu agis, la manière dont tu es. N'est-ce pas ?
Bien sûr,
donc, il y a des choses que tu feras pas parce que tu sais que tu es observé ou tu sais que tu pourrais être observé. Et donc, ça veut dire que ça réduit ta liberté. Ça réduit ta liberté d'être ce que tu voudrais être. Tu vois, de faire ce que tu voudrais faire. Donc, ta liberté est réduite. Et dans la sphère virtuelle, dans la sphère électronique, c'est un petit peu le même problème. S'il n'y a pas d'endroit ou d'assurance que tu vas avoir des lieux privés ou des endroits privés, eh ben tu vas plus agir de la même manière. Alors oui, c'est électronique parce que, bon, c'est peut-être pas non plus la même portée que si c'est physique, mais il n'empêche, si tu vas plus agir de la même manière, ça veut dire que le fait qu'on t'observe transforme ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire, et donc que ta liberté est réduite aussi.
J'aime beaucoup et je trouve que c'est un excellent angle d'attaque. Ma question étant plutôt, est-ce que c'est pas une illusion de croire qu'on a cette vie privée ? Étant donné que n'importe quel ingénieur de chez Google, de chez Microsoft, de chez qui tu veux, aura accès d'une façon ou d'une autre, à un moment, il y a quelqu'un qui a accès. Donc, elle n'existe déjà pas, que ce soit même des pirates, etc., je veux dire. Alors, c'est pas une raison pour le gouvernement de faire le mal.
Voilà, c'est ça le problème, c'est que...
Mais je veux dire, ça reste une illusion.
Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une question de mesure, là aussi. Si tu as, je sais pas moi, des caméras devant les distributeurs de billets, là tout le monde peut le comprendre, bon, ok. Si tu as des caméras partout dans toutes les rues, c'est plus la même chose. Et on a vu, en fait, avec la NSA, le problème qui a été... avéré avec la NSA, c'est qu'ils avaient mis et ils ont toujours des caméras absolument partout. Donc il y a une différence entre le fait qu'un ingénieur, s'il s'emmerde un jour, il peut regarder voir tes mails et il devrait pas, mais il le fait quand même. Mais d'une part, il devrait pas, c'est illégal. Mais bon, il le fait quand même. Ok, pourquoi pas. Et le fait que les caméras soient installées absolument partout. Là, il y a, si tu veux, un équilibre. On peut comprendre certaines choses si ça arrive de temps en temps. Enfin, tu vois, il y a différentes mesures. Et le fait d'avoir un système qui, justement, systématise autant les écoutes et la surveillance, là, ça devient inquiétant. Alors, le gouvernement français qui instaure ce genre de lois qui sont sans doute nécessaires dans une certaine mesure, mais de cette manière et... au moment où on parle tellement des abus de la NSA, je pense que c'est pour le moins malvenu. Mais
ouais, tu sais, autant j'ai plaisir à pas être d'accord avec toi, mais là je non. Absolument.
Ah merci. Jérôme, toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Alors, je vais dire un truc extrêmement provocant, juste pour voir ce que ça fait. Tout ça, si je prends vraiment beaucoup, beaucoup de recul, je me dis, les espions ne savent plus se planquer. Pourquoi ? On sait que l'espionnage, bon, existe depuis la nuit des temps. Je pense que le premier homme qui a inventé le feu, il y avait quelqu'un qui regardait au-dessus de son épaule.
Entre parenthèses, on n'a pas inventé le feu, Samory Pille, on l'a découvert.
Oui, oui, on l'a découvert, ça va. Bon, enfin, vas-y, il faut quand même taper des pierres ou frotter du bois. Hein, donc,
ah oui, alors on a inventé des moyens de faire du feu.
Ça, c'était dans le rendez-vous tech 1, ça, c'était il y a longtemps.
Je sais pas.
C'est des startups innovantes.
C'est très provocant ce que je vais dire, mais je le teste en même temps que je le dis pour voir ce que ça fait dans ma tête. Si on part du postulat que l'espionnage a toujours existé, l'espionnage de ses citoyens a toujours existé, aujourd'hui, on est en train de débattre qu'il faudrait plus de transparence chez les espions pour qu'on soit plus au courant et qu'on leur dise qu'ils ont le droit ou pas d'espionner. J'ai envie de dire, ils font plus leur boulot d'espion. Normalement, on devrait pas être au courant de tout ça.
C'est
ça surtout que je veux dire.
Non, je suis pas d'accord. L'espionnage est complètement encadré légalement. On a tout à fait non seulement le droit mais le devoir de savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. C'est le principe même d'un état de droit.
Ça devient chiant quand on part sur les trucs et sont droit de tuer.
C'est encore autre chose. Non. Mais si tu veux, on a eu des situations où il y avait un espionnage complètement sans limite dans les pays de l'Est, il y a pas si longtemps que ça, on avait effectivement des situations où les espions étaient partout, ils faisaient tout, et bon, c'est pour dire que c'est pas que les espions ont le droit de tout faire, c'est que ils ont le droit de faire certaines choses justement. Il faut que ça soit encadré. C'est très clairement défini, et c'est d'ailleurs l'un des problèmes aux États-Unis avec ces histoires de la NSA. L'un des problèmes principaux qui se pose, c'est que normalement, ils n'ont absolument pas le droit d'espionner les citoyens américains.
Oui, je sais, je sais.
Donc il y a des lois. C'est pas vrai de dire que il y a toujours eu des espions.
Je faisais une hypothèse.
Non, bien sûr, je sais, mais.
Provocante, mais quand même, on est d'accord que l'espionnage, pour qu'il fonctionne, et on sait aussi l'espionnage, tu as parlé des conséquences négatives d'un espionnage trop profond dans la société, par exemple de l'URSS, enfin des soviets.
Moi je pensais à l'Allemagne de l'Est.
De l'Est, mais en même temps, on sait aussi qu'un espionnage efficace a protégé, et même, je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas, justement,
parce que
le principe de l'espionnage, c'est qu'on ne doit pas savoir. Je vais juste jusqu'au bout de la théorie. C'est que je suis d'accord qu'il faut encadrer les espions, mais enfin, le principe d'un espion, c'est justement de faire des choses qui sont interdites.
Pas du tout. Il y a une très grosse différence entre le fait qu'on ne sache pas. C'est marrant cette discussion, mais il y a une très grosse différence entre le fait qu'on ne sache pas
à faire l'avocat du diable,
qu'on ne sache pas qui l'espion va aller espionner. Et le fait qu'on dise ce qu'il a le droit de faire pour aller espionner les gens, tu vois. Si on dit un espion n'a pas le droit d'aller écouter ce que tu dis au téléphone sans qu'un juge ne l'ait autorisé, eh ben là, on encadre l'activité de l'espion. Par contre, le monde entier ne va pas savoir qu'il va aller écouter Jérôme Kainborg pour découvrir son trafic de burritos importés.
Mais est-ce qu'on est d'accord que le problème, de toute manière, c'est un problème de vitesse? C'est ça, hein? C'est que aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient le droit de commencer à écouter et ensuite ils devaient demander l'avis d'un juge.
Il y a plus que ça, mais oui, en partie.
Mais en gros, comment est-ce qu'on peut... Parce que moi, je vois pas d'alternative, en fait. C'est ça le truc que je veux bien. Il y a un côté où il faudrait pas, mais comment on fait par ailleurs? C'est quoi l'alternative, en fait?
Moi, je pense qu'on revient à cette question d'équilibre des pouvoirs. Par exemple, dans l'article 13, qui est maintenant article 20, il y a une personne qui est désignée par le Premier ministre, qui est renouvelable, qui est désignée pour 3 ans, qui est placée par le Premier ministre, qui donne l'autorisation pour l'écoute ou non.
Ça, je suis d'accord, ça m'a choqué. C'est le ministre de l'Intérieur qui doit s'occuper de ça, quoi.
Bon, à la limite, si le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre, c'est un petit peu la même chose, mais je voudrais, moi, qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement, donc a priori un juge qui puisse regarder ça un petit peu, parce que là c'est quand même le pote qui va dire ok, tu peux y aller, tu peux pas y aller, ou enfin tu vois, je voudrais qu'il y ait plus d'équilibre. Je dis pas qu'il faut pas faire tout ça, peut-être qu'il faut le faire exactement de cette manière, mais pour être un petit peu précis, pour conclure parce qu'on va pas y passer la nuit, mais pour être un petit peu précis, je voudrais que les choses soient précises et encadrées, qu'on sache exactement ce qu'on a le droit d'écouter et d'espionner, et dans quel cas, et dans pour quelle durée, et de quelle manière, et d'autre part que ces choses soient passées en revue par une personne, alors que ça soit un juge ou autre chose, je sais pas, hein, Montebourg a expliqué que ça pouvait pas être un juge, peut-être, mais par quelqu'un qui n'est pas nommé par le Premier ministre directement.
Et puis, est-ce qu'un angle un peu à la Google dans leur transparence est possible? Est-ce que ça aiderait de se dire, voilà, ok, le gouvernement doit dire à la fin de chaque année combien de fois ils ont fait usage de ces écoutes, etc., pour qu'au moins on sache un petit peu l'étendue.
Mais ça, tu vois, c'est exactement un moyen d'apposer un contre-pouvoir à cette activité. C'est-à-dire que le contre-pouvoir, c'est quoi? C'est le fait de dire au public de donner certaines informations sur ses activités. On va voir si ça provoque ou non une réaction adverse. C'est ça, hein, finalement, le fait de révéler ce type d'informations. Si ça provoque une réaction adverse, le public peut, en étant informé, dire « Ah ben non, ça me plaît pas, donc je vais voter pour quelqu'un d'autre après », ou non. Et si ça lui plaît, eh ben le pouvoir reste en place. Tu vois, c'est ce genre de choses. Ou alors, ils peuvent pousser pour avoir des lois différentes, etc. Mais là, pour moi, il n'y a pas assez de contrôle et pas assez de précision. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de ce genre de loi. Hein.
C'est vrai que c'est opaque. C'est impossible pour nous. On essaye de creuser. Et ce que je me rends compte dans cette discussion, c'est que on reste à la surface parce que c'est tellement difficile de savoir ce qu'il y a dedans que...
Puis on n'est pas non plus les plus grands experts, hein, si ça se trouve, il y a des choses qui sont très précises. Moi, j'ai lu quand même pas mal d'articles sur le sujet, personne n'y voit très clair. Hein,
non, même des gens
Jérôme,
qui sont
le
experts. Le mot de la fin, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis d'accord avec les deux messieurs, je n'ai exprimé une opinion provocante que pour the sake of the show, comme on dit, pour qu'il y ait débat, mais je ne suis pas pour un espionnage
où tout
est permis. Même si je trouve que James Bond, quand il se posait pas des questions métaphysiques, c'est plus intéressant à regarder.
Maintenant,
t'as vu comme James Bond a évolué, justement.
Aujourd'hui,
il est pris dans des codes moraux et des trucs. C'est bien, hein. Mais c'est l'évolution de la société. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, on se posait pas du tout ces questions-là sur l'espionnage, hein.
Alors t'as réussi à faire le point Godwin, on va parler des nazis à la prochaine
phrase. Non. Ce que je voulais dire, c'est tout le fond du problème, c'est que on est aujourd'hui dans les pays occidentaux, dans des gouvernements relativement stables. Attention à ce qu'on décide, parce que par nature et dans la nature de l'histoire, les périodes de stabilité ne durent pas, et que les lois par contre restent et peuvent être utilisées, se retourner contre nous.
Moi, je dirais que si on se met à invoquer des logiques de guerre quand on n'est pas en guerre, du coup, j'ai peur de ce qui se passera si on est en guerre un jour. Tu vois, si la baseline, c'est que c'est quand même très dangereux. Finalement, c'est ça le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent attention les terroristes, attention les pédophiles, attention les machins.
Justement ce que je veux dire, c'est que ça commence avec les terroristes et les pédophiles, et puis le gouvernement d'après te dit tous ceux qui manifestent contre le gouvernement, ils rentrent sous le coup de la loi aussi, donc c'est ça qui est dangereux.
Exactement. Bon, petit mot rapide pour dire que aux US, les choses bougent sans bouger sur les questions de la NSA. Les sociétés tech s'organisent pour essayer de faire du lobbying contre ce type de pratique. Il y a une task force gouvernementale présidentielle qui a recommandé des changements sur les tactiques de surveillance de la NSA. En même temps, il y a d'autres personnes qui disent que en fait, ces recommandations sont totalement vides. Donc en tout cas, les choses continuent à évoluer aux États-Unis pour ces affaires-là. C'est plutôt bon signe parce que ça veut dire qu'elle ne tombe pas dans l'oubli. Passons à nos news et rumeurs rapides. Une info, à vrai dire, que j'ai vue pour la première fois retweetée par Jérôme Kainborg, et dont j'ai beaucoup entendu parler après, c'est le fait que Google a racheté Boston Dynamics. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est Boston Dynamics, vous vous souviendrez peut-être de ces vidéos de robots absolument cauchemardesques. Un robot qui s'appelait Big Dog, notamment, qui était une sorte de mule de transport qui avait juste quatre jambes robotiques super bizarres qui allaient hyper vite et sur tous les terrains de la Terre, qui était évidemment
contracté. Qui allait très vite.
Alors, c'est encore autre chose.
Ouais. Non, c'est toujours Boston Dynamics. La mule, oui. Elle allait pas très vite, mais rien que sa démarche était effrayante. Après, t'avais le cheetah qui allait très très vite, mais qui était pas autonome. Il était accroché à un truc. C'est celui qui courait très très vite.
Ouais.
Et le dernier qu'on a vu, lui, il va vite et il est pas accroché à un bras. Il court de partout.
Donc Google a racheté ça.
Ouais.
Ils sont vraiment en train de construire Skynet et les Terminators, là, les garçons.
Alors, moi, j'ai eu un bon mot, tu me connais. J'ai dit, c'est dommage que ce soit pas Apple qui a acheté Boston Dynamics, parce que le problème, c'est qu'avec Google, si le robot qui court très vite, le chien tueur, robot, il se réfère à Google Maps, t'es sûr d'être bouffé. Alors que si le chien robot, il se réfère à Apple Maps, il va aller bouffer la poubelle deux rues plus loin.
Effectivement.
Donc, t'es sauvé.
Voilà. Effectivement. Pas bête.
Non, mais il y a un côté pas bête avec Google Maps. Hein. Ça coûte cher d'aller regarder partout. Imaginez envoyer une armée de ces petits gars cartographier le monde. Ça peut être hyper intéressant. Je pense que quand on laisse un peu aller son imagination, alors il y a des côtés qui font peur, mais il y a des côtés qui sont absolument fascinants à ce qu'on peut faire.
Oui, non, mais c'est sûr. C'est clairement un truc qui pourrait, dans les mains de Google, donner des choses invraisemblables. Et d'ailleurs, on parlait de Andy Rubin, le fondateur de Android, donc les mobiles, qui est visiblement passionné de robotique, qui a commencé à gérer un nouveau projet chez Google. Beaucoup de gens ont pensé que c'était peut-être pour ce projet-là qu'ils avaient racheté Boston Dynamics. Bon, peut-être que effectivement on aura des choses surprenantes dans ce domaine chez Google bientôt. Ouais. Entre parenthèses, Boston Dynamics, c'est un nom de film, de société de science-fiction, de film de science-fiction. C'est...
Ah bon?
Attends, ah bah j'ai pas Dynamics. Non, enfin ça sonne, tu vois.
Ah ça sonne. Ah. Oui.
J'ai pas essayé de me demander.
On dirait comment il s'appelait
dans Fringe?
Oui, exactement.
J'y pensais aussi merde, je sais plus. C'est le logo, c'est 2M imbriqué
Massive Dynamics.
Ouais. Massive Dynamics, je crois. Comme ça, ouais.
Oui, c'est
ouais.
Massive Dynamics, c'est peut-être pour ça.
Moi je me suis beaucoup interrogé sur pourquoi ces robots-là me faisaient plus peur que d'autres robots, et c'est vrai que on n'avait jamais vu de c'est comme les zombies qui courent et les zombies qui marchent. Un zombie qui marche, ça te fait un peu moins peur, c'est creepy, mais pas plus que ça. Un ouais. zombie qui court à toute vitesse et plus
c'est
vite
affolant,
que toi,
ouais.
Ça fout les boules, quoi.
Non, et en plus, un autre truc qui fait que c'est super bizarre, c'est que c'est des robots semi animalomorphes. Tu vois, moi aussi, je fais des néologies.
Oui, des
c'est-à-dire
trucs
que
sans tête.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'est des robots. Alors, on a des robots partout dans toutes les usines du monde, mais c'est même pas. Ça ressemble pas à un truc qu'on voit dans la nature. C'est juste des bras articulés et c'est tout qui construisent des voitures. Là, effectivement, comme tu le dis, il y a des pattes sans tête. Il y a des. Enfin, c'est super bizarre, quoi. Bref, Boston Dynamics.
En tout cas, s'ils font un bruit de tondeuse comme le dernier modèle qu'on a vu chez Boston Dynamics, on a encore du temps avant.
Ouais.
Que...
On a quelques années. On a quelques années.
Quelques années.
Non,
ouais.
Mais ils vont transformer les voitures autonomes en robots. Tu vois, ça va être des transformeurs, machin.
Ils vont se passer des humains et Google se tournera sur lui-même un moteur de recherche qui se recherche avec des robots. Voilà.
Dailymotion aurait trouvé un partenaire. On parlait de tout à l'heure de Yahoo et de l'intervention de Mondebourg. Moi je trouve qu'il s'était pas mal défendu en disant finalement Yahoo nous a proposé un deal qui nous intéressait pas, où on était perdant, donc on l'a pas accepté parce qu'on était perdant, et voilà, et c'est tout. Alors c'est vrai que dans la présentation ça a été fait de manière un petit peu différente parce que l'État est actionnaire de la boîte, donc par Orange, et donc on avait l'impression que c'était l'État qui disait non, et il y a eu un peu de ça aussi quand même, mais
oui,
la partie
attends, il l'appelle un joyau, moi mettais à la place des gens qui travaillent chez Dailymotion à se dire mais merde, c'est pas nous les joyaux, arrêtez de focuser sur nous, quoi. C'est ça fout les boules d'être un joyau.
Oui, je sais pas.
Si.
Oui, peut-être. Mais enfin bon, bref, les choses s'étaient pas passées tout à fait comme ça, mais on comprend la logique. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'ils aient trouvé un nouveau partenaire qui leur donne un deal qui leur convient beaucoup plus, et certains parlent de Microsoft. Donc peut-être un rachat 50-50 avec Microsoft ou une autre société de ce type-là. On va voir ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir.
Et juste pour greffer sur cette news sur Dailymotion, Dailymotion a acheté aujourd'hui une boîte très intéressante qui fait un player, le meilleur player de vidéo. Et je trouve que c'est très très bien de leur part parce que c'est un peu ce qui leur manquait.
C'est vrai que leur player est pas le meilleur de loin.
Et là, alors je cherche le nom, je l'ai mis dans
Gillion.
Mon board. Voilà, Gillion.
Gillion, c'est une boîte qui est à deux pas de chez moi d'ailleurs. Bravo,
ouais, oui, j'ai vu. En plus, une boîte suisse. Ouais. Ouais.
Bravo la Suisse.
Ouais, excellent. Ouais.
Et bravo la Norvège. On parlait de certaines spécificités des Scandinaves il y a quelques minutes. La Norvège est en train. Alors, on vient d'entendre parler de ça, mais en fait, ça a commencé il y a longtemps. La Norvège est en train de digitaliser tous ces livres, mais tous, sans aucune exception, et de les rendre en accès gratuit, électronique bien sûr, à tous ceux qui ont une IP norvégienne. Donc, peu importe la question du copyright, ils disent c'est un service social, c'est une avancée, enfin c'est quelque chose d'important pour la société. Donc ils numérisent absolument tout et tout le monde y a accès gratuitement en numérique.
Mais bon, qui c'est qui va lire des livres norvégiens en dehors
de la Norvège ? Eh ben les Norvégiens.
Vas-y, semblerait... relève la limitation de l'IP. Quoi.
Il semblerait qu'ils soient en train de faire ça dans d'autres pays nordiques aussi. Donc quelque chose de très intéressant effectivement. J'imagine, je connais pas très bien la Norvège, mais j'imagine qu'il y a moins de gens qui produisent ce type de contenu pour venir se plaindre auprès du gouvernement norvégien. Il y a moins d'intérêt à défendre. On parlait il y a quelques mois de la Suisse qui voulait conserver, en tout cas pas modifier les lois de droit d'auteur parce qu'ils estimaient que tout était très bien couvert dans Internet et que les téléchargements illégaux entre guillemets n'étaient pas un problème parce que les gens dépensaient plus dans la culture, etc. On avait précisé à l'époque qu'effectivement il y a moins de production de contenu en Suisse, donc c'est moins difficile à faire passer ce genre de choses. Mais il n'empêche, la Norvège a une approche extrêmement intéressante à ce niveau-là, donc c'est quelque chose qu'on ne peut que noter. Nokia, vous les connaissez, non ? C'est des gens qui font des trucs avec Microsoft, que Microsoft va racheter. Donc, c'est les grands amoureux de Windows Phone, n'est-ce pas ? Ils font rien d'autre.
Ah bah, c'est clair.
C'est évidemment clair.
Évidemment clair.
Eh bien, non. Connaissez-vous le projet Normandie ? Normandie avec un Y, hein, donc c'est plutôt Normandy.
C'est dans Mass Effect ?
Pas exactement.
Oh,
c'est Nokia qui est en train de développer sa version d'Android low cost qu'ils ont commencé à développer il y a quelques temps, qui serait là pour remplacer leur OS low cost aussi, qui est Asha, dont on avait parlé, Asha, on avait parlé il y a quelques temps. Et ils seraient en train en fait de développer leur propre version d'Android, un petit peu comme ce qu'a fait Amazon avec le Kindle Fire. Une version low cost, mais qui serait en fait, qui serait skinée, qui ressemblerait à Windows Phone. Donc, il serait en train de remplacer Asha par Android, mais sans que ça soit vraiment Android. On se demande ce qui va se passer avec Microsoft quand ils vont le rachat, enfin, le rachat, on dit toujours rachat, c'est pas tout à fait un rachat, mais quand ça va être finalisé. Et il semblerait que Microsoft n'ait a priori pas forcément intérêt à annuler le projet parce que ça peut être intéressant sur les low cost.
Est-ce que Normandie, ça vient de l'idée de reconquête ? Vous pensez que c'est là que ça vient
Peut-être.
C'est
peut-être.
Le débarquement.
C'est
ouais,
possible.
Je pense que c'est ça, hein, sincèrement. Oui. Et ça dit, à mon avis, le nom, on dit vraiment long sur le désespoir. Ils vont dire, bon, bah, il nous faut une tête de pont. Voilà, quoi.
C'est possible. Ouais,
c'est exactement ça, ouais, une tête de pont, ouais, je pense.
C'est possible.
Microsoft, je pense qu'il vaut mieux qu'ils mettent un pied un peu partout,
D'autant
au cas
plus
où un des business s'effondre.
D'autant plus qu'ils gagnent de l'argent quand sur Android aussi avec leur brevet. Donc, d'ailleurs, en parlant de faire des efforts et de tête de pont, Microsoft serait en train de réfléchir à rendre Windows Phone et Windows RT gratuits pour les grossistes. Certains en tout cas, donc Windows Phone et Windows RT, pour gagner du terrain et gagner des parts de marché sur les autres OS. Bon, ça serait peut-être une solution effectivement quand on sait que c'est un OS payant alors que l'alternative Android, et si elle n'est pas gratuite dans les faits, elle est en tout cas beaucoup moins chère à utiliser.
Bon, là, il y a une raison toute simple, hein. C'est mathématique. 80% du volume des Windows Phone viennent de Nokia. Ils ont racheté Nokia, donc ça devient de la comptabilité interne, en gros.
Oui, oui.
Autant le rendre gratuit. Autant le rendre gratuit parce que voilà, ils n'ont rien à perdre. Donc c'est vrai qu'ils ont perdu leur source de revenus là.
Oui, bon, disons qu'ils vont quand même vendre les téléphones, donc ils se retrouvent au final. Mais oui, peut-être mais sur pour conquérir le, d'autres.
Le système d'exploitation a plus de valeur marchande en ce moment, quoi.
C'est ça.
Ces deux nouvelles là, que ce soit sur le Normandie ou ça, une chose qui est, que j'ai pas dit, qui se disait beaucoup à le web, c'est que quand tu vois des gens aussi comme Facebook, aujourd'hui la conquête, elle va pas être de d'avoir des nouvelles parts de marché sur des marchés déjà existants. Il faut grossir le marché en fait. C'est-à-dire que les marchés arrivent à saturation. Donc je pense que voilà, si Windows occupe le terrain le plus possible, quitte à se dédire d'un truc qu'ils ont fait il y a deux ans, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, voilà, la croissance viendra de gens qui n'utilisent pas encore des téléphones et ce genre de choses. Donc, c'est les mouvements des grands, en tout cas.
C'est noté. Deux dernières petites news sur Windows et puis on va se quitter. D'une part, Windows Phone 8.1 inclurait un centre de notification et un assistant à la Siri. On avait entendu parler de Cortana, qui est une référence à Halo. Halo. Oui, c'est un peu ça. Donc le fameux jeu sur Xbox. Donc peut-être que ce Windows Phone 8.1, d'ailleurs c'est pas peut-être, c'est sûr, va inclure enfin un centre de notification et un Siri-like. Donc adepte de Windows Phone, des nouveautés qui arrivent pour vous. Et enfin, Windows Threshold. Vous savez ce que c'est, Windows Threshold?
Non, mais c'est bien dit.
N'est-ce pas?
C'est 8.2.
Ouais, c'est un petit peu ça. Bon, ça serait 8.3, en fait. Ouais. Qui arriverait au printemps 95. Printemps 2015. Donc, peut-être même que ça sera Windows 9, on ne sait pas. Mais il y aurait un menu Start, un vrai menu Start, pour le coup, avec des applications de la Modern UI qui seraient utilisables sur le bureau, donc dans des fenêtres, en fait, et un Windows RT, donc la version light de Windows, sans desktop, qui serait qui permettrait de ne pas rendre les choses extrêmement compliquées à expliquer. Il y aurait une version tablette, une version desktop, et les deux qui seraient de plus en plus compatibles. Enfin, compatibles. Les apps de la version tablette fonctionnent sur la version desktop. Ça serait plus simple pour tout le monde. Bon, là, on est vraiment dans le domaine des rumeurs, mais ça serait peut-être pas mal qu'ils simplifient les choses parce que c'est pas facile à comprendre pour le commun des mortels. Ah,
quelque part, c'est cochon qui se dédie, mais tout est bon dans le cochon. En gros, c'est bien qu'ils se dédient parce que ils étaient allés trop loin.
Tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas qu'ils soient allés trop loin, mais ce qui est clair, c'est que les gens comprennent toujours pas. Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont mal expliqué. Mais en tout cas, les gens comprennent pas et les choses ne décollent pas. Donc,
qu'est-ce que tu veux comprendre quand un truc, c'est deux lettres pour différencier deux trucs complètement différents?
Bah, si tu veux, mais c'est là qu'on voit la différence entre. Regarde, on en a déjà parlé, mais les pubs pour Windows 8, c'était des gens qui volent dans les airs avec les tablettes qui font clac, clac, clac. Tu te souviens de cette pub?
Oui, ouais, tout à fait. C'est une catastrophe, une pub catastrophe.
Complètement. Et quand Apple a introduit l'iPad, qui était là aussi un truc vraiment différent. Bon, ils avaient quand même l'iPhone. Remontons à l'iPhone, tiens. Quand ils ont introduit l'iPhone, leur pub, c'était tu peux faire ça avec le doigt qui montre sur les icônes ce que tu peux faire, machin, tu peux faire ça. Ah, et c'est aussi un téléphone. Tu vois, donc ils expliquaient ce truc qui était un petit peu étrange à l'époque. Windows, enfin Microsoft aurait dû expliquer ce que c'est que ce Windows RT. Personne n'a rien compris. Enfin bref.
Ah, non.
Moi, je pense que c'est parce qu'ils ont mal expliqué. Mais peut-être que... Bref. Voilà.
Est-ce que question subsidiaire, est-ce que vous avez un nom, une idée, une vision pour le CEO de Microsoft? Parce que c'est quand même ça qui va être important, maintenant que quelqu'un revienne, quoi, quelqu'un vient de mettre de l'ordre.
Franchement, c'est difficile à dire, hein.
Pas de nom qui sont sortis
Vraiment. Pas vraiment. Je vois pas, enfin. Non, je sais pas vraiment. Puis tu sais, Microsoft, c'est une bête tellement complexe. On pourrait avoir tendance à se dire, on veut que ce soit quelqu'un de jeune et de dynamique et de machin, mais mastodonte. Il faut quelqu'un aussi qui puisse gérer une énorme boîte comme ça. Donc,
moi, j'ai dit non, en tout cas.
Écoute, il y a un nom qui est sorti mais que je connaissais pas, qui s'appelle Satya Nadella, le gars de la division Enterprise et Cloud. Je trouve que ça collerait bien à Microsoft, mais Voilà, j'étais curieux d'avoir votre avis.
Je sais pas, moi je connais pas assez
ça. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas trop suivi les étalons pour Microsoft. Il y a qui en lice aujourd'hui dans les grands?
Ça serait compliqué, on va pas se lancer là-dessus, mais.
D'accord. Oh ouais, non, mais il y a plus personne. Hein. Les deux qui voulaient, Mulally et l'autre de Qualcomm, ont les deux dit non, donc voilà quoi.
D'accord.
Peut-être en interne, c'est pas plus. Non, moi je sais, j'ai trouvé. Scott Forstall.
ça serait super.
Ça serait marrant, non?
Ah oui, ça serait pas mal du tout, ça.
Ouais, il va venir.
Et qui reviendrait avec un vieux carnet jaune à spirale.
Exactement.
En disant, l'avenir de Windows, c'est ça.
C'est le skeuomorphisme. Pour ceux qui ne le savent pas, ce que
franchement,
était le...
moi, je trouve que ce mec, on lui crache dessus et c'est dégueulasse parce que grâce à lui, on a compris comment utiliser des smartphones.
Bah oui.
Avec ses carnets à spirale.
Bon, bref. Allez, on va conclure l'émission parce que là, on est en train d'arriver à la fin, vraiment de la fin. Et pour conclure l'émission, je vais proposer, par exemple, au hasard, à Benoît de nous dire où on peut le retrouver et de nous donner quelques détails sur les choses qui changent et qui se passent chez Niptech. Moi, je suis parti quelques semaines entre l'été et maintenant. Ça y est, tout a été transformé. Dis-nous tout.
Oui, absolument. Alors, niptech.com, hein, si vous voulez déjà aller sur le site, ou à Niptech Podcast sur Twitter. C'est vrai qu'il se passe pas mal de trucs. On est en train de gentiment avoir des nouveaux podcasts qui se créent dans la famille Nip. Alors, on a Nip Sales, Nip Dev, Nip Life, qui parlent de life hacking. Et donc, c'est assez sympathique. On garde le même esprit pour chacun. C'est des nouvelles et puis une petite partie inspiration, un petit peu de réfléchir sur le monde qui est la marque de fabrique de tous ces podcasts. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on continue à être un petit peu partout en francophonie, entre le Canada, la France, le Luxembourg, et la Suisse. C'est vrai, on n'a pas encore de podcast belge, mais ça ne saurait tarder. Donc c'est très sympa. C'est vrai que ça fait plaisir de voir la famille grandir.
Super. Eh ben, félicitations. Jérôme, pour toi, de quoi s'agit-il?
Alors moi, le boulot qui me rapporte rien mais qui me bouffe tout mon temps, c'est sur nowtech.tv. Donc vous retrouverez des vidéos quand j'ai le temps d'en faire. Là, j'en ai fait quelques-unes sur le web. J'ai pas encore fait ma grande vidéo sur le web à mon avis quand cet épisode sortira. Et puis sinon, je travaille dans une agence de publicité, de marketing, un groupe qui s'appelle CACOM et je m'occupe du contenu. Et vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est Jérôme Kenborg, KEINBORG.
Merci Jérôme. Pour ma part, c'est Note Patrick sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas sur Twitter, et à partir de là, vous pouvez retrouver tous mes sites et mes liens. Vous pouvez aussi retrouver les notes de l'émission sur frenchspin.com et vous aurez aussi d'autres podcasts à suivre là-bas et à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Certains sont pas belles du tout, si je peux le dire moi-même. Ça, c'est aussi un anglicisme.
Jamais mieux servi. Hein.
Oui, c'est vrai. Enfin, il y en a deux autres. Hein. Ça fait pas non plus une écurie énorme. Vous pouvez aussi... vous pouvez aussi nous laisser des commentaires sur iTunes, sur le catalogue iTunes, puisque c'est un moyen pour d'autres personnes de nous découvrir. Vous pouvez nous dire, comme EasyDoc qui dit arigato gozaimasu minna, qui veut dire merci beaucoup à tous, j'adore ce podcast, je n'ai pas assez de temps pour suivre toute l'actualité tech, mais cette émission me résume exactement ce qu'il me faut, je peux plus m'en passer. Un gros merci à Patrick et à sa bande, bonne continuation, merci à toi EasyDoc. Il y a Johan Euillard qui se plaint un tout petit peu. Bon, il nous dit quand même qu'on n'est pas mauvais, mais il nous dit qu'on parle peut-être un peu trop de la vie de Patrick. cet épisode, on a commencé avec ça, donc désolé.
Mais il faut que tu lances un podcast où tu parles que de toi et
que de
ta
moi,
vie.
Ouais. Ça, je pourrais, hein, j'aime tellement m'entendre parler. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais du podcast. et DBTCS qui mentionne, bon, la chose qu'on n'a pas mentionnée depuis le début, qui nous dit quelle initiative extraordinaire que d'avoir parlé d'éducation. Merci à toi. toi des BTCS. C'est vrai que c'était un sujet plutôt intéressant, je pense, et puis ça me tenait à cœur d'en parler. Comme on l'a pu, hein, je veux dire, moi je suis pas un grand expert, et puis c'est pas non plus le sujet principal de l'émission, donc j'espère que vous avez apprécié ce petit podcast de remplissage, et puis que vous avez apprécié les intervenants qui m'ont fait l'amitié de venir. C'était un sujet intéressant, je pense, et j'espère qu'on a au moins éclairé un petit peu quelques lanternes et incité peut-être certaines personnes à aller chercher un petit peu plus dans ce domaine-là, qu'on a dit des choses un petit peu intéressantes en tout cas. Pour le prochain épisode, et ben écoutez, figurez-vous que Noël arrive et donc je serai encore en vacances, scandaleux. En vacances, c'est Noël hein, en même temps, donc bah, je serai en Finlande. Attends, voilà,
je
mariage.
Le soir de Noël, j'ai la barbe blanche, je suis dans le supermarché, et je fais sauter des gamins sur les genoux. Hein.
Ah ben j'allais dire, je pourrais venir te voir du coup.
Ouais, écoute, je suis pas sûr de te faire sauter sur mes genoux.
On en discutera, on réglera ça entre nous. Mais donc, il y aura un autre épisode spécial, qui est un épisode qui a été enregistré il y a quelques semaines déjà, avec mes amis Cédric Bonnet, qu'on évoquait tout à l'heure, et William Abisrohr, et on parle de leur Ulule et de leur expérience de crowdfunding, donc le Ulule de Geek Inc. et de Will & Co., deux émissions qui sont évidemment d'une excellente qualité et que j'aime beaucoup. Et donc on a discuté comme ça pendant une petite heure, un petit peu plus, de la manière dont ça s'était passé, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont, de leur surprise, de ce qui les a surpris dans le processus, etc. Donc voilà, ça fera un petit épisode spécial, donc dans 15 jours cette fois, on saute pas d'épisode, ça sera un épisode dans 15 jours, et dans un mois, on sera de retour en 2014, donc avec l'épisode normal, classique, du Rendez-vous Tech, et puis à partir de là, on viendra sur un emploi du temps un petit peu plus normal, donc il n'y aura plus a priori d'interruption, ou en tout cas, pas avant un petit moment. Eh ben écoutez, c'est la fin de cet épisode, donc je pense que je vais me contenter de vous souhaiter à tous et à toutes qui nous écoutez un très 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 joyeux Noël, avec Jérôme qui vous fera peut-être sauter sur ses genoux si vous êtes gentil, et une excellente année, même si on le fait peut-être dans l'épisode suivant, une excellente année 2014, hein, c'est bien ça. Et donc, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. On sera en 2014, la prochaine fois qu'on se parlera pour de vrai. Je vous fais de grosses, grosses bises et à très bientôt. Ciao, ciao.
Bonne fête à tous. Ciao.
Ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.